Ayez foi en Dieu, c'est l'interpellation que j'avais à cœur de nous laisser avec cette question: sur quoi repose ta foi? Sur quoi repose notre foi? Et c'est une bonne question, hein. Dimanche passé, on a entendu aussi entre la science et la foi. Et ce dimanche, eh bien, un petit peu plutôt la foi, sur quoi repose ta foi? Ayez foi en Dieu. Parce que si vous avez foi en l'Église, si vous avez foi en des gens, foi dans un pasteur, dans un être humain, eh bien, ça sera que du vent. Que du vent. Par contre, si votre foi repose sur Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité, eh bien, ça sera puissant. Ça sera puissant. Et on va un petit peu s'entretenir autour de ce thème ce matin. Sur quoi repose ta foi? Ayez foi en Dieu. Marc 11 nous dit, et on va tout de suite lire ce texte, Marc 11, 11 à 26, « Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Assez spécial, hein. D'un coup, vous allez vers un pommier, un poirier ou je ne sais pas quoi. Vous voyez là, ouh, une bonne pomme. Enfin, je ne vous encourage pas à aller faire du maraudage, hein, et vous êtes contrarié parce qu'il n'y a pas de fruit et vous dites, ben, sèche. C'est un peu ça, hein. Un peu. Plus loin, verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et là, on voit Jésus aussi qui entre dans le temple et il voit avec tristesse les gens qui étaient... C'est un autre contexte, hein, on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et on sait bien que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et là, il y avait encore ces sacrifices qui étaient encore faits. Et il y avait des gens qui vendaient des pigeons pour pouvoir égorger ces pigeons et recevoir le pardon. Alors ça nous paraît dégoûtant, peut-être, mais souvenons-nous eh bien, que Jésus a donné son sang et que c'est parce que Jésus a donné son sang qu'il n'y a plus ces choses-là. Et il y avait tout un commerce, un business qui était fait dans le temple pour acheter, vendre, et puis finalement, ce n'était plus vraiment une maison de prière, mais on faisait un business du salut, un business du pardon. Et Jésus, il renverse tout ça. Fallait être culotté, hein. Et il renverse tout ça et il était assez furieux. Ça devait chauffer. Nous, on le lit comme ça, mais il y avait une sainte colère. Un peu plus loin, les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Instantané, hein? Mieux que le Roundup ou je ne sais pas quoi. Les religieux de l'époque, pharisiens, les scribes, c'était les religieux de l'époque. Ils ne se sont pas dit, voilà quelqu'un qui a vraiment une autorité du Seigneur, de Dieu, il y a des choses qui se passent. Non, ce qu'ils ont voulu, c'est éliminer la concurrence. Ils se sont dit, il y a peut-être certains privilèges qui vont tomber, on va chercher à l'éliminer, c'est ce que nous dit ce texte. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » La réponse par rapport au figuier. Ils disent, « Tu vois le figuier que tu as maudit, il a séché. » Puis lui, il leur dit, « Ayez foi en Dieu. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc vraiment un exemple que Jésus donne à ses disciples, non pas évidemment pour prier pour que les montagnes, tout à coup, que notre pays ressemble à la Belgique, soit tout plat, ou la Hollande, ou je ne sais pas quoi, mais vraiment que c'est un exemple, que ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus, qui est la parole, hein, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, Jésus, ce que Jésus dit, eh bien, s'accomplit. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu est la source de notre foi. Verset 25, « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas à votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » En lisant ce texte, j'ai été frappé par l'autorité qui se dégage de ce passage et je me dis que ça pourrait être pour nous d'un grand secours. Cette foi en Dieu. Jésus parle d'une foi authentique, non pas d'une foi passive ou naïve, mais d'une foi vraiment puissante qui prend sa source en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, pas dans le pasteur, pas dans l'Église, pas dans une institution. Bien souvent, on s'approche de ministères, de dons, de talents, de personnes, et on peut être déçu. Ça ne se passe pas toujours comme on l'aurait souhaité, désiré, voulu. Mais là, Christ nous invite à avoir foi en Dieu. Et cette foi authentique, c'est celle qui glorifie véritablement le Seigneur. Ce n'est pas une simple construction humaine, c'est un don de Dieu, comme l'affirment différents textes, juste deux petits textes qui nous disent eh bien, de placer notre foi à la bonne place. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Là encore, demandez la foi en Dieu. Si vous n'avez pas cette foi en Dieu, demandez-la. De Pierre 1, verset 1, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu. » Donc si on a reçu, ce n'est pas parce qu'on a fait un effort, c'est un don. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Si tu as l'impression que tu as perçu, tu peux demander, demander avec foi. Dans Romains 12, 3, il est écrit que Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Alors on n'a peut-être pas tous la même mesure de foi, mais Dieu nous a donné une mesure de foi, celle qu'on a besoin finalement. On n'a besoin ni de plus, ni de moins. Et cette foi a permis aux hommes et aux femmes de Dieu de demander et d'accomplir des choses extraordinaire. Considérons quelques exemples avant Jésus-Christ. Abraham accepta de sacrifier son fils, croyant que Dieu le ressusciterait. Alors il ne l'a pas fait. Hein. Je vous rassure tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas, cet acte de foi démontre une confiance totale en Dieu, même dans des situations les plus incompréhensibles. Et ça, on trouve dans Hébreux 11, versets 17 à 19, où il est parlé de la foi d'Abraham, qui croyait eh bien, que si Dieu lui demandait jusque cela, eh bien, il le faisait parce qu'il avait la foi eh bien, que Dieu le ressusciterait. Josué, lors de la conquête de Jéricho, une ville où il devait tourner autour de Jéricho, qui est toujours située en Israël, hein, voilà, Jéricho, il devait tourner pour conquérir cette ville qui avait été donnée au peuple hébreu qui sortait d'Égypte et qui rentrait sur cette terre d'Israël. Josué obéit à Dieu en marchant autour de la ville pendant 7 jours. Il alla même plus loin en demandant à Dieu d'arrêter le soleil pour achever sa bataille à Gabaon et Dieu l'exauça. Je ne sais pas, arrêter le soleil, c'est quand même particulier. Hein. Nous, on a des spots, des lumières, on peut éclairer, des fusées éclairantes. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Ben, c'est pas trop compliqué, tu demandes à Dieu d'arrêter le soleil, comme ça tu peux continuer ce que tu es en train de faire. Et puis, non mais, ça, si vous voulez vérifier, c'est dans Josué 10, versets 12 à 14. Caleb a 85 ans. Caleb demande à s'emparer d'une montagne infestée de géants, croyant fermement que Dieu lui donnerait la victoire. Non, mais à 85 ans, quoi. Frais comme un jeune homme. Josué 14, versets 10 à 12. David, encore adolescent, il a battu le géant Goliath avec une simple fronde, convaincu finalement que Dieu combattrait pour lui. C'est dans 1 Samuel 17, 45 et suivant. Où le roi Ézéchias, relisez ce texte aussi, ça vaut la peine. Ézéchias, dans 2 Rois 20, versets 1 à 6, malade à mort, il prie Dieu pour une prolongation de sa vie et Dieu lui accorde 15 ans supplémentaires. Je ne sais pas quel âge il avait, mais en tout cas, des choses assez particulières qui se passent. Les amis de Daniel, on parle souvent de Daniel, mais il y a les compagnons de Daniel, comme on les appelle, face à la menace de la fournaise ardente, ils ont refusé de renier leur foi en Dieu. On leur dit, ben, si tu te prosternes pas devant le souverain, le roi, si tu te prosternes devant Dieu, on va te jeter dans la fournaise. Facile. Dans mon cœur, Dieu, il sait que je l'aime, donc je vais juste dire, bah oui, j'adore Nebuchadnezzar ou je sais pas quoi, mais Dieu va trier. Non, ils ont dit, de toute façon, Dieu peut nous délivrer. Dieu peut nous délivrer, je ne vais pas renier mon Seigneur. Et là, les amis de Daniel, face à cette fournaise ardente, c'est fou, c'était tellement chaud, on pourrait dire, c'était pas très chaud comme ça, non, tellement chaud que ceux qui les ont jetés dans la fournaise sont morts brûlés. Et eux, ils se sont promenés dans le feu et tout à coup, le roi a eu peur. Dans Daniel 3, versets 16 à 28, on ne peut pas tout lire, évidemment, ce matin, mais relisez ces textes qui fortifient notre foi, qui nous encouragent. Et ils ont refusé de renier leur foi en Dieu, croyant que Dieu pouvait les délivrer, et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et ces exemples montrent que la foi ne se limite pas à une simple croyance. Ce n'est pas juste une simple croyance. C'est vraiment une force que Dieu nous donne tous les jours de notre vie. Et il y a cette phrase, je ne sais pas de qui elle est, plusieurs personnes ont dit que ça venait de telle ou telle autre personne. Cette phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et nous, parfois, eh bien, dans notre esprit bien petit cartésien, eh bien, on se dit, c'est juste impossible, donc je ne vais pas prier pour ça, parce que c'est quand même trop gros. Mais là, ils ont eu foi en Dieu et il y a beaucoup d'autres exemples. On pourrait rajouter Élie, on pourrait rajouter bien d'autres exemples dans la Bible. La foi, c'est une force active qui s'attaque à l'impossible. Hébreux 11 regorge d'exemples de cette foi qui déplace des montagnes. Et dans notre texte de Marc 11 que j'ai lu tout à l'heure, il y a trois idées majeures qui se dégagent de ce thème de la foi. Les fondements de la foi sur lesquels eh bien, elle s'appuie, les obstacles de la foi, ce qui la rend parfois inopérante et juste quand même terminer sur une note positive, que rien n'est trop difficile pour Dieu. Pour nous, oui, mais pour Dieu, rien n'est trop difficile. Est-ce qu'on le croit ? Est-ce qu'on le croit ? Lorsque les disciples font remarquer à Jésus que le figuier a séché, il leur répond simplement « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Sur la parole. Sur la parole, Dieu a créé le monde. Sur la parole, Jésus. Dieu a créé le monde. Pourquoi une telle réponse ? Pourquoi une telle réponse ? Cette malédiction du figuier, pourquoi maudire un figuier ? Il n'a rien fait de mal, ce n'est pas un être vivant, le figuier. Jésus avait maudit cet arbre dans Marc 11, 14, parce qu'il avait l'apparence de la fécondité, mais en réalité, il y avait que des feuilles. Et le figuier, c'est une figure peut-être d'Israël de l'époque, par cet acte, Jésus condamnait la sécheresse spirituelle du peuple, la religieuse, tous ces religieux sans véritable foi. On voit tout ce qu'ils ont cherché à faire, eh bien, c'était de liquider Jésus, parce qu'ils se sont dit, il y a un concurrent qui est là, et il n'y avait pas vraiment de foi. Et ce qu'on voit aussi dans ce texte, c'est fondement de la foi, le pouvoir des paroles de Jésus. Les disciples étaient surpris de voir que la condamnation prononcée par Jésus avait un effet immédiat. Et ça montre que lorsque Dieu parle, les choses arrivent vraiment. Sur sa parole, Dieu a dit et les choses se sont passées. Et le support de la foi se trouve dans les promesses de Dieu. Ce matin, on a chanté « Compte les bienfaits de Dieu ». Et combien de fois je me suis attardé à compter toutes les difficultés que j'avais. Et ça mine, ça sape le moral, les amis. Ça sape le moral de voir tout ce qui ne va pas. Mais de se souvenir à tous les bienfaits de Dieu. Dieu a promis bien des choses. Est-ce qu'on croit que ses promesses se réalisent? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il est le même? Les promesses de pardon. Peut-être certains se sentent accusés. Dans la Bible encore, il est dit dans Actes 10, 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom, reçoit par son nom pardon, le pardon des péchés. » Crois en lui, paraît simple. En Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Mon frère, ma sœur, si tu te sens accusé par le diable qui te rappelle tel ou tel péché, alors n'entretiens pas ce péché, laisse-le à la croix. Mais la Bible dit que si on confesse nos péchés, confesser c'est aussi cette volonté de parvenir, de ne pas s'entretenir, de laisser là et de ne plus faire. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et combien de personnes sont bloquées pour des choses peut-être vraiment pas glorieuses qu'ils ont accomplies il y a 10, 20, 30 ans. Et reste bloqué avec ça en disant « c'est tellement grave que Dieu ne peut pas me pardonner ». Oui, Dieu peut et veut vous pardonner. Parce que la parole de Dieu n'est pas un mensonge. Si Dieu dit, c'est vrai, comme ce figuier, bien plus que le figuier. Le figuier, c'est une illustration de ce que Dieu peut faire. Mais si Dieu a pu faire sécher un figuier, et s'il dit qu'il vous pardonne les péchés, c'est vrai. Mais laissez-le à la croix. Promesse de salut aussi dans Jean 3, 16, qu'on connaît dès notre petite enfance, pour ceux qui ont fait de l'école du dimanche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous avez cette assurance du salut? Si ce n'est pas le cas, venez à Jésus, par son Esprit qui donne cette assurance du salut, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, je suis juste en train de lire des versets de la Bible. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, c'est trop simple. Vous voulez que ça soit plus compliqué? Non! C'est tout simple, celui qui croit à la vie éternelle. Croit pas juste qu'il y aura une bonne raclette à la fin, mais celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit au Saint-Esprit, à la vie éternelle. 1 Jean 2, 25, et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. C'est pas juste « j'espère que », c'est triste. Promesse de provision aussi, Dieu est capable de pourvoir. Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ou Jean 14, 13 à 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Promesse de provision, moi j'oublierai jamais. Jamais, jamais. Et vous le savez pour la plupart, mais des exemples qu'on a vécu avec Rebecca aussi, quand nos pneus d'hiver étaient poutz, mais fichus de chez fichus, et pas les moyens de mettre de nouveaux pneus d'hiver. J'étais en formation théologique, j'avais une femme malade, j'avais 3 enfants. Un seul revenu, demi-revenu, parce que j'étais aux études, et de se dire, mais Seigneur, tu nous as poussés jusque-là pour mourir de faim dans le désert. C'est un peu ça. Hein. Là, je le dis avec peut-être humour, mais sur le moment, la mort dans l'âme, tu dis, mais finalement, on est complètement à côté de la plaque, on s'est trompé, on a fait fausse route. On a fait fausse route, on va faire banqueroute ou j'en sais rien quoi, pas les moyens de changer de pneu. Et j'ai mis mes pneus d'hiver, je les ai changés, je les ai mis malgré tout. Et ils ont été regommés par le Seigneur et ils ont encore duré 5 ans. Et ça, je l'oublierai jamais. Ça, je l'oublierai jamais. Il y a de nombreux témoins de ça et ça a été un témoignage pour nous aussi. Et ces mêmes jours, on a dit la seule chose qu'on peut encore supprimer dans notre budget, c'est les desserts. Et le même jour, quelqu'un est venu avec un sac réfrigéré, avec 4 bacs de glace Mövenpick, pardon pour la pub, mais... Et il n'y a pas une semaine jusqu'à la fin de mes études où on n'a pas reçu des desserts. Parce qu'on avait dit à Dieu, le seul truc qu'on peut supprimer encore, c'est les desserts. Et ça, on ne me l'enlèvera jamais de la tête. Et lorsqu'il y a des difficultés, je veux compter les bienfaits de Dieu. Amen. Promesse de secours aussi, Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors oui, ça a été des moments difficiles, oui, il a fallu compter, oui. On n'a pas eu tout ce qu'on aurait peut-être voulu, souhaité, aimé. On n'a peut-être pas fait toutes les vacances aux Caraïbes qu'on aurait souhaité, d'ailleurs j'en ai jamais fait, mais... Et j'en souhaite même pas, mais peu importe. Mais on a eu l'essentiel, et aujourd'hui encore. Et ces promesses sont puissantes et doivent guider nos prières. Et on doit apprendre à prier en fonction de ce que Dieu dit, nous appuyant sur sa parole. Dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, Dieu utilise des serviteurs et des servantes pour transmettre la parole de Dieu, pour encourager aussi, pour prier. Mais ce qui compte, ce qui demeure, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu qui nous fortifie. Psaume 37, 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ce n'est pas toujours de l'instantané. Même si on est dans un monde de fast-food, de très rapide, on veut tout de suite consommer avant de payer. Payer par échelonnement, c'est notre monde. On veut, c'est l'instantané. Tu veux un truc, tu le prends et tu ne te préoccupes pas trop comment tu vas le payer, mais tu le prends. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, en tout cas ce qui est nécessaire. Parfois le futile ou des choses, eh bien on ne les a pas. Ce passage nous rappelle que Dieu a un dessein précis pour chacun de nous qui convient de chercher Dieu. De rechercher Dieu n'est pas simplement un distributeur d'exaucement, mais un Dieu de communion. Alors ça, c'est déjà une chose, les fondements de la foi, eh bien reste la parole de Dieu. Deuxième chose, il y a des obstacles à la foi. Et oui, c'est vrai. 3 obstacles majeurs peuvent rendre notre foi inopérante. Le doute, l'égocentrisme et le refus de pardonner. Jésus le dit dans Marc 11. Le doute, Jésus dit dans Marc 11, 23, « Celui qui demande sans douter verra ses prières exaucées. » Et le doute, c'est l'incrédulité qui vient d'un cœur irrésolu, nous dit Jacques 1, versets 6 à 7. Il nous avertit que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Le doute empêche de percer les mystères de la parole de Dieu. L'égocentrisme, là aussi, finalement, on demande pour notre confort. Hein. On vient à Christ pour notre confort, pour nos besoins, pour notre... Tout ce que vous demanderez en priant, ça ne signifie pas eh bien, qu'on peut prier pour satisfaire n'importe lesquelles de nos passions. Jacques 4, verset 3, nous avertit que Dieu n'exauce pas les prières motivées par des désirs égoïstes. Là encore, est-ce que ça contribue à faire avancer le royaume de Dieu? Et le refus de pardonner, là aussi, Marc 11, 26, nous dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Et l'absence de pardon est un des plus grands freins aussi aux exaucements, parce que ça nous coupe aussi de la communion avec Dieu. Marc 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Tout à l'heure, on sera devant la table de la Sainte Cène aussi, et c'est important. Ce pardon, c'est l'essence de la foi. Le pardon, c'est ce pourquoi Jésus est venu dans le monde. Le pardon. Parce que sans pardon, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Sans la grâce, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Le pardon. J'ai parlé des pigeons, des vendeurs de pigeons qui étaient là pour, parce qu'ils avaient besoin de ces pigeons pour s'attirer la faveur de Dieu, ses sacrifices. Mais Jésus est venu dans le monde pour combler, pour accomplir tout ce que Dieu demandait. Et c'est son sang, son corps qui a été livré. Le pardon, c'est l'essence de la foi chrétienne. Jésus est venu pour qu'on soit pardonné, parce que rien d'impur peut entrer dans la présence de Dieu. Et c'est peut-être pour ça que Jésus met autant l'accent sur le pardon. Sur le pardon. Le pardon. Si on ne pardonne pas, eh bien, on n'est pas exaucé. Et peut-être des choses très difficiles ont été... Vous avez traversé des choses extrêmement difficiles. Demandez à Dieu cette force aussi. Parce que humainement parlant, ce n'est juste pas possible, certaines choses, de pardonner. De pardonner sincèrement. Demandez à Dieu. Et on peut même partager, prier, prendre le temps. Ça peut prendre du temps, mais ô combien c'est important. Ô combien c'est important. Jésus va mettre l'emphase là-dessus. Et pour terminer, sur une note extrêmement positive, se souvenir que rien n'est trop difficile pour Dieu. Marc 11, 23 nous dit « Si quelqu'un dit à une montagne se déplacer et de se jeter dans la mer sans douter, il verra s'accomplir ce qu'il a dit. » Ça démontre que la foi nous permet vraiment de nous attaquer à des choses impossibles. Les montagnes représentent ici tous les obstacles insurmontables de la vie. Tout ce que vous, face aux défis, la foi nous autorise à croire que Dieu peut changer le cours des choses, même dans des situations les plus désespérées. Ce que tu vis, mon frère, ma sœur, en ce moment, Dieu peut te donner la solution. Dieu peut t'apporter le secours dont tu as besoin. Peut-être pas comme toi tu voudrais, mais comme Dieu estime que c'est juste. Dieu peut venir à ton secours. Comme je vous ai dit, cette histoire de pneus, moi je m'attendais peut-être que quelqu'un allait nous donner plein d'argent et puis que la vie serait facile, puis qu'on pourrait... Ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que chaque année, pendant 4 ans supplémentaires, j'ai remonté les mêmes pneus en me disant... Et chaque année, je me suis souvenu de ça. Si l'argent tombait bling, 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 on serait dit, ben c'est normal finalement. Par contre, des pneus, ce n'est pas normal qu'ils ne s'usent pas. Avec 30 000 km par année, ce n'est pas normal qu'ils ne s'usent pas. Ce n'est pas normal. Si vous en trouvez, achetez-les tout de suite. Un exemple marquant, c'est celui de Georges Müller, qui par sa foi a vu Dieu pourvoir miraculeusement aux besoins de milliers d'orphelins sans jamais demander directement de l'aide aux hommes. Il n'a pas fait d'appel de fonds, de lettres, de nouvelles avec un gros en gras et bling bling qui clignote « si vous voulez nous soutenir, mais sentez-vous libre ». Non, c'était à Dieu qu'il a confié. Et Dieu lui a donné, lisez ses biographies aussi, Georges Müller ou d'autres personnages. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Jacques 5, 17, 18, il est dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La même nature que nous. Hein. Quand on lit ça, on a de la peine à se dire c'était une autre époque. Mais cette parole s'adresse aussi à nous. C'était un même personnage, un même cœur, même couleur du sang qui coulait dans ses veines. Le même auteur de sa vie. Alors il n'a pas demandé quelque chose qui était hors du plan de Dieu. C'était Dieu qui lui avait inspiré ça. Ce n'était pas pour satisfaire sa soif peut-être d'être reconnu dans la puissance de son ministère glorieux, non. C'était pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas pour qu'il y ait plein de gens, de followers qui le suivent, et puis que tout le monde dise oh, « comme il est grand, Élie !» Non, c'était comme le Dieu d'Élie est grand. Et beaucoup de choses sont peut-être trop difficiles pour nous. On se trouve face à un grand problème, on sait qu'on ne peut rien faire. Et parfois, eh bien, c'est vrai, on doit l'avouer, on devient triste, mais ne nous décourageons pas. Souvent, on oublie que si on ne peut rien faire nous-mêmes, Dieu, lui, le peut. Dieu le peut. On peut donc demander à Dieu de nous venir en aide. Et si ce que nous demandons à Dieu est en accord avec sa volonté, il le fera. Peut-être pas tout de suite, mais il le fera. Dieu dit-il qu'on peut seulement lui demander des petites choses ? Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Ce n'est pas écrit comme ça. Dieu ne nous demande pas de déplacer de vraies montagnes. Bien sûr, il utilise une image pour nous montrer que rien n'est trop difficile pour Dieu. Aucun problème n'est un problème pour Dieu. T'imagines, si tu pouvais déplacer des vraies montagnes, il n'y aurait plus besoin de construire des tunnels ou je ne sais pas quoi. Les entrepreneurs y prient, puis bof, la montagne se déplace. On ne doit pas penser que sa promesse n'est pas pour nous ou pour quelques personnes seulement. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ce n'est pas dit si vous dites, si quelqu'un dit à cette montagne. Quelqu'un, c'est vous aussi. Ça veut dire que tout le monde peut demander. On n'a pas besoin d'une grande foi parce qu'on a un grand Dieu. Juste croire qu'on a un grand Dieu, c'est ça peut-être la foi. Ce n'est pas croire que vous-même, vous pouvez tout faire. Là, je vous dis tout de suite, non, vous ne pouvez pas tout faire. Mais Dieu peut tout faire. Et pas forcément ce que nous, on demande, parce que ce n'est pas toujours dans des bonnes dispositions qu'on demande certaines choses. Parfois, il y a une petite dose d'orgueil qui traîne là derrière et Dieu nous met aussi à l'épreuve. On doit simplement croire que ce que Dieu veut se fera, Dieu fera ce qu'il dit. Je vous invite simplement, la prochaine fois, vous serez confronté à un problème, à réfléchir à Dieu. Que feras-tu ? Est-ce que tu vas commencer à t'inquiéter d'abord ? Est-ce que tu seras troublé ? Est-ce que tu auras envie de fuir ? Est-ce que tu auras juste foi en Dieu ? Compte les bienfaits de Dieu. Merci pour le choix de ce chant et tous les autres. Compte les bienfaits de Dieu. Et combien de fois ça m'a servi aussi de me souvenir de ce que Dieu avait fait. Ce témoignage, mais je pourrais en rajouter d'autres, des témoignages personnels que Dieu a fait. Et c'est ce genre d'exaucement, ce genre de choses où Dieu a fait l'impossible. Eh bien, que je veux me souvenir et qui vont me dire, ben, c'est vrai, j'étais vraiment au fond du bac. Il me semblait que c'était fini, quoi. J'ai fait fausse route, je me suis trompé. Mais Dieu a donné la porte de sortie, Dieu a donné la solution. Dieu a donné la solution. Souvent, on ne connaît pas la volonté de Dieu, alors on est appelé à juste lui faire confiance. Croire qu'il agira d'une manière juste et bonne. Mais d'autres fois, on connaît la volonté. Alors, mettez-la en pratique. Et lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, dans ce cas, eh bien, croire avec certitude que Dieu répondra. Quand on a foi en Dieu, Dieu répond. Alors, chers amis, cette foi qui transporte des montagnes, ce n'est pas une simple croyance religieuse. Ce n'est pas une nouvelle théologie. Vous l'aurez compris, Dieu demande à personne, Jésus demande à personne de prier pour jeter les montagnes dans la mer. Ce n'est pas ça. C'est un exemple qui nous dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est une ferme espérance, une démonstration de vie qui dit à tous, voyez, ça fonctionne, c'est possible. C'est possible parce qu'on a un grand Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas du blabla. Peut-être dans mon prêche, il y a une part de blabla. Laissez de côté. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Retenez la parole de Dieu. C'est le seul moyen d'être agréable à Dieu, parce que sans la foi, nous dit Hébreux 6, il est impossible de plaire à Dieu. Est-ce qu'on possède la foi ? Y a-t-il des obstacles à faire tomber, des doutes, de l'écocentrisme, du non-pardon ? Revenons à Jésus, qui est l'auteur de la foi, mais aussi celui qui nous donne la capacité de pardonner, de recevoir le pardon, mais aussi de le transmettre. Que le Seigneur nous éclaire, nous guide dans ces choses, pour notre foi, que notre foi soit véritablement un témoignage vivant de sa puissance. Dans Marc 11, verset 20 et Marc 11, 25, on voit qu'en moins d'un jour, le figuier s'est desséché. Ça montre que Jésus a le pouvoir divin de juger les hommes. En moins d'un jour. En moins d'un jour. Et dans Marc 11, 25, on a vu aussi à quel point c'est important de pardonner aux autres. Pensons à tout ce que Dieu nous a pardonné. Si on ne pardonne pas aux autres, Dieu n'écoute pas nos prières. Et comme j'ai dit, souvenons-nous pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Pas juste pour qu'on soit guéri. Oui, Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous apporter la guérison. Mais la plus grande guérison, c'est la guérison de notre âme, la guérison du péché qui est tapis à notre porte et qui empoisonne notre vie. C'est ça la plus grande guérison. Dieu veut nous guérir parfois physiquement et il le fait et gloire à son nom. Mais la plus grande guérison, eh bien, c'est cette séparation d'avec Dieu. Parce que sans le pardon, on ne s'approche pas de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Et de se dire, mais c'est trop fort, c'est trop violent, je ne peux pas pardonner. Jésus pourrait le dire à moult reprises pour nous. Jésus pourrait dire, mais c'est trop moche ce que tu as fait, je ne peux pas te pardonner. Non, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ce matin, recevons cette grâce. Sur quoi repose ta foi? C'est quoi les fondements? Est-ce qu'il y a des obstacles? À chacun de réfléchir, de se placer devant Dieu. Et pour terminer, juste se souvenir que rien n'est trop difficile pour Dieu. Pour toi, oui. Pour moi, oui. Pour nous, bien sûr, il y a bien des choses qui sont trop difficiles. Mais rien n'est trop difficile pour Dieu. Amen. Amen. Je vous invite juste à fermer vos yeux. Enfin, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais juste pour être concentré sur le Seigneur et juste réfléchir à ce que je viens de prêcher, tous ces textes bibliques qui nous encouragent aussi, qui sont là, non pas pour nous accuser, mais pour fortifier notre foi. Juste répondre à cette question, sur quoi répond ta foi, mon frère, ma sœur? Réponse honnête dans ton cœur face à Dieu. Sur quoi repose ta foi? Est-ce qu'il y a des obstacles qui sont là? Des montagnes, des choses trop dures, trop de déceptions, ça peut être la déception, des blessures, des coups, des trahisons. Est-ce qu'il y a des obstacles? Viens Jésus. Considère ce qu'il a supporté pour nous tous. Considère son amour et tourne juste ton cœur à Jésus, reçois son pardon et cette force aussi. À ton tour d'être un petit peu comme ton Seigneur, Jésus a pardonné. Et souviens-toi que si c'est trop dur pour toi, rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Il est capable de fortifier parce que tout nous vient de lui. Il est capable de nous transformer. Il est capable de nous conduire sur ce chemin. Évidemment, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ce n'est pas instantané, ça peut prendre du temps. Mais Dieu veut nous conduire dans ce processus de pardon, de grâce, d'amour et de foi. Si ce matin, mon frère, ma sœur, tu sens que tu as besoin juste de ressentir son pardon, lève-toi à ta place et je vais prier pour toi. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais j'ai juste à cœur de prier pour vous. Si tu sens qu'il y a des obstacles à la foi, des choses trop dures, où tu es dans une situation trop complexe, peut-être au niveau de ta santé, au niveau peut-être de blessures, de l'amertume qui est dans ton cœur, lève-toi à ta place aussi. J'ai à cœur de prier pour vous. pour que vous soyez libre de cette gangrène de l'amertume, ou la maladie. Peut-être tu as une maladie où tu te dis, mais c'est, je m'en sortirai jamais. Lève-toi à ta place. Ou une situation de couple, une situation de famille. Lève-toi à ta place. Parce que Dieu veut aussi agir. Peut-être pas comme toi tu veux. Si peut-être tu doutes, tu te dis, mais Dieu, il ne veut pas faire ça. Ou Dieu, il ne peut pas faire ça. Lève-toi pour recevoir cette foi que tu as besoin. Si Dieu est capable de remettre de la gomme sur des pneus d'un véhicule, il est capable de faire pour toi aussi. Il est capable de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Eh bien, Seigneur, merci de bénir ces frères et ces sœurs qui se sont levés. Seigneur, c'est entre toi et eux. Tu sais pourquoi ils se sont levés. Tu connais leurs sentiments, leur cœur, leurs besoins. Leurs besoins de grâce, leurs besoins de pardon. Tu connais les obstacles à l'accomplissement, Seigneur, de tes bénédictions dans leur vie. Peut-être des maladies. Seigneur, toutes les injustices que certaines et certains ont vécues. Seigneur, merci parce que toi aussi, tu as vécu beaucoup d'injustices et tu es capable de conduire, Seigneur, dans la paix, la grâce et le pardon. Merci, Jésus, d'accomplir ton œuvre de grâce et que des chaînes tombent maintenant dans le nom de Jésus. Que des chaînes d'amertume, que des chaînes de non-pardon, que des chaînes de maladie tombent dans le nom de Jésus. Que des chaînes tombent maintenant, des chaînes d'incrédulité aussi. Seigneur, parce que rien ne t'est impossible. Tout est possible à toi, Seigneur. Tout est possible. Fortifie notre foi, fortifie la foi de mes frères et sœurs. Et Seigneur, que des chaînes tombent maintenant. Que des écailles des yeux tombent maintenant et qu'ils puissent voir ta gloire. Qu'ils puissent ressentir ton amour, Jésus. Souffle par ton esprit, Seigneur, sur cette salle. Accomplis ton œuvre, Jésus. Accomplis ton œuvre de victoire, déjà accomplie à la croix. Seigneur, dans ces lieux, que ces lieux soient visités par l'action de ton Esprit Saint, Jésus. Souffle par ton esprit maintenant, Jésus. Conduis-nous, Seigneur, dans une conviction de péché, de justice et de jugement. Conduis-nous, Seigneur, à considérer, Seigneur, ta sainteté. Seigneur, que tu es un Dieu d'amour, mais tu es aussi un Dieu trois fois saint. Que tu es un Dieu de grâce, mais tu es aussi en colère, comme on l'a vu, face au péché, face à ces vendeurs, face à ceux qui s'éloignent de ton plan, Seigneur. Souviens-nous, Seigneur, de ta justice, de ta bonté. Souviens-nous, Seigneur, aide-nous à nous souvenir. Seigneur, de ton amour, de ta grâce. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Pour ceux que c'est trop dur, qui disent, mais ça, jamais. Jamais je pardonnerai. Ça, jamais je laisserai. Seigneur, qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans leur cœur. Seigneur, qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans leur cœur. Un nouveau possible de l'impossible. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Dans le nom de Jésus Tout-Puissant, j'ai prié. Amen.